Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes à Montbazon sur le festival des historiques avec une école traditionnelle japonaise d'arts martiaux. Bonjour.
Bonjour, moi je m'appelle Marie. On est venu aujourd'hui à Troyes, donc c'est notre premier festival. Donc on est venu avec Romain et Joël pour représenter et expliquer la tradition, donc l'école dans laquelle on pratique, qui s'appelle la Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu.
Art martial traditionnel japonais depuis 600 ans. Vous avez fait une démonstration au bâton. Il y a d'autres armes aussi qui ont été présentées, qui ressemblent, alors je vais dire ça avec mes mots d'européen, un peu à une sorte de hallebarde, en quelque sorte. Il y a aussi bien sûr des katanas et tout ça. C'est que des arts martiaux traditionnels avec armes que vous pratiquez ?
Alors, l'école est très très complète, donc il y a plein de déclinaisons, en effet, d'armes, mais il y a également du combat au corps à corps qui s'appelle le yawarage, il y a également donc du lancer de shuriken, mais c'est il va y avoir aussi, au-delà des disciplines martiales, des enseignements qui sont d'ordre stratégique, des enseignements qui sont d'ordre, pas philosophique, mais
ésotérique,
spirituel, donc c'est une école qui est vraiment très complète.
Travail du corps et de l'esprit.
Travail du corps et de l'esprit, oui. Mais sous une dimension martiale forte, c'est une école qui est pratique, où on apprend en fait à former le corps, à réagir le plus simple, le plus efficacement possible, dans un contexte de guerre en fait.
Tradition toujours vivante, après 600 ans, ça se passe comment ?
Alors, le fondateur de l'école, c'est Isasa Choisai. Et en fait, le savoir s'est perpétué de génération en génération, ce qu'on appelait à l'époque les soke, qui étaient à la fois les détenteurs du savoir, les représentants de l'école. Et il est arrivé que la génération soit interrompue. Et auquel cas, en fait, aujourd'hui, c'est la famille Otake qui est représentant, enfin, qui en tout cas, qui est dépositaire du savoir, avec un soke qui, lui, est représentant culturel, en fait, de l'époque.
Bien culturel intangible au Japon, ce statut-là, il a été acquis à quel moment ?
Ce statut-là, il a été acquis dans les années 60. À la base, donc Otake Risuke, qui est le shihan, c'est-à-dire le référent technique, lui, il a accès à l'ensemble des techniques et il les maîtrise. Il y a certaines techniques qui ne sont pas connues par les débutants, d'autres qui sont enseignées ouvertement. Donc, c'est encore une école traditionnelle, mais qui maintient aussi une partie secrète, comme ça l'était à l'époque. Une petite parenthèse, par exemple, pour entrer dans l'école, il faut signer ce qu'on appelle le kepan. Et le kepan, c'est la signature avec son sang. Donc quand vous arrivez au dojo, on vous donne un petit couteau, une petite aiguille, et puis voilà, vous faites ce qu'il faut, et vous signez de votre sang un parchemin qui est envoyé au temple Katori, d'où le nom de l'école, parce qu'elle est affiliée au temple Katori, un temple Shinto, et vous pouvez ainsi rentrer dans l'école. C'est perpétué parce que c'est une tradition dans laquelle on continue à faire les choses comme elles étaient faites il y a 600 ans. Alors, je reviens au classement bien culturel intangible. Elle a été classée autour des années 60 et c'est à l'initiative d'une association qui se charge de la conservation des arts martiaux traditionnels. À la base, donc c'est dans la préfecture de Chiba que ça s'est organisé. Et il était question d'organiser un duel entre le représentant de l'école, qui a aujourd'hui 93 ans, qui est toujours dans le dojo, et qui continue d'enseigner, de corriger, et de nous impressionner. Alors, donc, à cette époque-là, il était question de faire un duel. Notre professeur et l'école proscrit les compétitions, proscrit les confrontations, tout simplement parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait confrontation, il y avait la probabilité d'avoir un mort. Donc c'est des choses qui sont absolument pas prises à la légère et donc proscription de la compétition. La confrontation n'est pas un jeu et elle peut engager la vie en fait. Et cette idée-là, il faut toujours la conserver dans la pratique encore aujourd'hui. Donc notre professeur dans les années 60 s'est entraîné. Là c'était une compétition pour classer l'école et donc il avait l'honneur de l'école à porter. Et il s'est entraîné très très dur pendant 40 jours, 40 nuits selon mes informations. Et il devait affronter un pratiquant de kendo. Qui, lorsqu'il a vu le professeur s'entraîner et lorsqu'il a compris qu'il n'était pas question de s'amuser et qu'il y allait éventuellement avoir un mort, bah ils ont annulé la compétition, ils ont décidé de classer l'école telle qu'elle, ce qui conforte les enseignements de l'école, dont l'un des principes, c'est d'éviter le combat. En s'entraînant dur, et en s'entraînant tellement dur, qu'il est plus facile de vaincre 1000 adversaires que de se vaincre soi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il fait froid, Quand on est devant la télé, lorsqu'on est sur son canapé, qu'on n'a pas forcément envie de sortir de chez soi, eh bien, le simple fait de faire son sac et d'aller s'entraîner, elle est là la victoire, la grande victoire. Et le principe, la philosophie de l'école, extrêmement simple, qui est une école réaliste, rustique, pragmatique, ben, il est là, il réside là-dedans. C'est dans cet effort qu'on fait sur soi, ben, pour tout simplement s'entraîner. Et là, donc, je reviens un petit peu sur le classement de l'école. Je fais des petits détours, excusez-moi, mais je parle au fur et à mesure de ce que je pense. Et donc, ben voilà, l'école a été classée. Il y a des parchemins qui sont encore conservés par la famille et dans les temples et qui attestent donc de la véracité. Les techniques sont expliquées, sont décrites. Et il y a des schémas de postures, de positions. Et on pratique ces postures, ces positions encore aujourd'hui. Et on maintient cette tradition vivante, quoi. On essaye en tout cas.
93 ans, vous disiez, pour le maître encore vivant au Japon, on peut commencer à quel âge ?
En général, c'est après 13 ans qu'on a le droit de commencer à apprendre les techniques de l'école. Auparavant, on est vraiment trop jeune.
Et ça demande une discipline quotidienne ?
Alors au dojo Oshimbunkan, qui est le dojo mère au Japon, les entraînements ont lieu absolument tous les jours. Donc on s'entraîne, il y a 3 heures d'entraînement tous les jours. Et des délégations viennent de tous les pays pour venir profiter donc de cet enseignement, puisque le dojo en fait est à l'intérieur de la demeure de Otakerisuke et il est présent tous les jours pour superviser, participer, corriger les apprentis qui viennent donc découvrir cette école-là. Après, dans les différents pays, ben, on s'organise aussi nous en fonction de nos obligations privées. Comme l'école n'a aucune vocation, n'est absolument pas une école dirigée vers l'argent, on ne fait pas d'argent avec le Katori, donc on s'entraîne, c'est complètement interdit. Donc on s'entraîne, on donne de notre temps gratuitement en fait, hein. C'est un investissement. Donc on le fait aussi en fonction de nos possibilités de vie privée. Donc ici à Montreuil, aujourd'hui je fais un à deux entraînements par semaine. Il y a d'autres écoles qui peuvent en faire plus, d'autres qui en font moins. C'est vraiment spécifique à l'enseignant.
Et il faut pratiquer pendant combien de temps pour espérer commencer à avoir un début de niveau correct ?
Alors, tout dépend de ce qu'on entend d'un début de niveau correct. Donc moi, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Je ne sais pas encore si j'ai un début de niveau correct. A priori, oui. On n'a pas de grade, on n'est pas associé fédération, il n'y a pas de ceinture, etc. Mais par contre, il y a quand même un à deux niveaux. Le premier s'appelle le Mokuroku, qui correspond à un rouleau. Et donc, ça veut dire qu'on maîtrise le catalogue basique des techniques principales de l'école.
Si je peux me permettre. En fait, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de dan. Les principes des ceintures, ça a été inventé pour un peu occidentaliser les arts martiaux, pour refaire un petit peu ce qui existait en Europe. Et donc, l'école, encore une fois, étant traditionnelle, et ce système n'existant pas, il est proscrit. Après, au Japon, je me permets un peu de parler de la culture japonaise, le génie ou le talentueux, il a une responsabilité supplémentaire par rapport aux autres, c'est de s'entraîner encore plus pour exploiter justement ce potentiel-là. Mais in fine, il est ni meilleur ni moins bon. Au dojo, il n'y a pas d'évaluation du niveau. Les gens s'entraînent. Sensei, c'est-à-dire le professeur, regarde. Lorsqu'il juge qu'il faut corriger, il se lève et il montre une correction. Il va se rasseoir et on continue. On peut poser des questions. On essaye de pas trop non plus en poser, parce qu'il est très sollicité. Mais tout réside dans la pratique, sans forcément se poser la question de qui est meilleur de qui et quel est le niveau. En fait, c'est presque un peu antagoniste avec un sport où on atteint un niveau et puis on vieillit et ce niveau diminue. C'est le travail d'une vie, tout simplement.
Vous avez des tenues traditionnelles, vous avez une armure de samouraï à côté qui est une réplique d'une vraie armure. Vous travaillez aussi avec une armure de temps en temps ou souvent ?
Alors oui, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc on a investi dans cette armure, mais pas pour les laisser au fond d'un salon en présentation, mais vraiment, non pas dans des entraînements réguliers, mais plutôt sur des journées qu'on va développer autour du Katori, donc Katori Shintoryu. Dans ces cas-là, on va porter l'armure et on va étudier au travers des katas, en particulier kata Kenjutsu, les applications, regarder pourquoi, comment, d'où viennent les applications et les différentes techniques. Ben, on le voit directement sur les armures, les différents points faibles de l'armure. Et on va travailler ça en particulier. C'est un aspect parmi d'autres de l'école. Et donc, on va prendre le temps. Après, pour mettre une armure comme celle-ci, pour la mettre correctement, ça prend déjà un peu de temps. C'est des armures qui sont légères et mobiles. Donc, on peut quand même se déplacer, faire la quête avec. C'est tout l'intérêt de le faire. Mais on va pas les sortir toutes les semaines.
L'école, elle a un cursus. Et ce cursus, c'est un ensemble d'enseignements qui sont à la fois des enseignements stratégiques et des enseignements physiques. Tout est orienté dans l'efficacité pour la guerre. La base du cursus, elle démarre avec le kenjutsu. Ken, ça veut dire le sabre, la lame, et jutsu, la technique. Donc on commence avec des techniques à deux, avec un boken, c'est-à-dire un sabre de bois, et on répète des katas. Or, ces katas, à la base, ils sont faits, ils sont adaptés pour des gens qui portent des armures. On est sur un art martial de champ de bataille. Donc les points faibles, les points vitaux et les défauts de l'armure sont exploités dans le kata. Alors ça va un peu vite pour les gens peut-être de l'extérieur, mais lorsqu'on rentre un peu plus dans l'école, on commence à comprendre en fait le but des attaques, pourquoi elles sont faites, et qu'est-ce qu'elles exploitent comme faiblesse dans l'armure. Et en fait, de façon un peu... ça va un peu à l'encontre, enfin, de ce que... à l'envers de ce qui se fait dans les écoles modernes, c'est que plus on monte dans le niveau, et moins on a d'armure, et plus on est dans des situations civiles en fait. Donc on sort du champ de bataille, et on va se retrouver chez soi, lors d'un assaut, lors d'une nuit, où vous êtes attaqué par un groupe, vous êtes en civil, vous êtes habillé, vous n'avez pas d'armure, et puis il faut réagir. Vous êtes dans une ville, vous vous retrouvez au fond d'une rue, vous êtes coincé, il faut réagir. Et petit à petit, en fait, plus on augmente le niveau, plus les distances se rapprochent, plus les mouvements deviennent subtils et légers, et plus on approche une escrime à deux, une escrime sans armure, avec l'ensemble des armes qui sont abordées. Alors on en a déjà parlé, mais il y a le sabre, il y a le bow, c'est-à-dire le bâton, 1m80 à peu près, la naginata, c'est-à-dire la hallebarde, mais aussi vous faites donc les katas avancés, les katas sans armure, de nouveau vous refaites tout un parcours de katas au ken, c'est-à-dire au sabre. Vous avez le double sabre, c'est-à-dire wakizashi et katana qui sont utilisés en même temps. Vous avez les techniques au poignard. Vous avez les techniques à la lance. Et vous avez encore d'autres niveaux de plus en plus subtils qui se rapprochent de plus en plus d'un combat, d'un duel en fait. À cela s'ajoutent les techniques de fortification, la divination dans les étoiles, l'apprentissage des principes du inyo gigaku qui est en fait le yin et le yang. Vous savez, le signe qui mélange le fort, le faible, le féminin, le masculin, etc., qui étaient des principes spirituels qui étaient en vogue en Chine et qui ont irrigué complètement la culture japonaise et qui étaient enseignés à l'époque. Vous avez des techniques de médecine. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on s'est fait une brûlure? Lorsqu'on a une poussière dans l'œil, on est sur un champ de bataille, on ne voit pas bien. Donc en fait, on s'écarte vraiment de l'idée du guerrier contemplatif sur sa montagne qui écrit des poèmes. Ici, on est dans une école pratique avec quelques formules magiques qui sont censées avoir un but, un objectif précis, une efficacité immédiate, et qui en fait font partie de la boîte à outils du guerrier de l'époque. Donc il faut de la rapidité, il n'y a pas le temps de réfléchir à 36 choses. Et donc on répète les katas sans cesse pour pouvoir en fait les automatiser. De la même manière, il n'y a pas de secret que vous conduisez une voiture et que vous arrêtez de penser au levier de vitesse. Au bout d'un moment, vous automatisez et vous rendez instinctif vos mouvements. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à travailler vraiment sur des réflexes, des choses de combat, en fait. C'est le principe pédagogique, on va dire, traditionnel de l'école.
Votre point de vue sur les combats de Béhour qu'on a eu, puisque j'ai l'impression que vous êtes complètement aux antipodes de ça, en fait.
Alors, je crois que je suis le seul à avoir vu du Béhour. Chaque activité a un but. Nous, on est dans la transmission d'une tradition qui veut maintenir encore vivant le kenjutsu, le bujutsu, comme il était à l'époque. Le béhour ne peut pas se passer de règles, on n'a pas le droit de faire mal, même si ça peut arriver. L'armure est adaptée à ça, les équipes s'organisent selon ça, donc on est sur des compétitions, on est sur autre chose en fait. Et chacun trouve midi à sa porte, et je trouve que c'est vachement enrichissant, vachement intéressant que chacun puisse, sans sectarisme, sans dogmatisme, pouvoir expérimenter en fait. Mais il faut quand même maintenir une tradition dans notre cas pour maintenir une authenticité. Donc on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Mais moi, j'ai pratiqué le kendo et beaucoup de plaisir à voir de la compétition. Mais la compétition, en fait, elle est... donc, je ne sais pas si je l'ai expliqué, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais la compétition est proscrite tout simplement parce que lorsqu'on est défait par un adversaire lors d'une compétition, on se dit, c'est pas grave, je le vaincrai dans 6 mois. J'ai compris son fonctionnement, je vais regarder des vidéos, et c'est pas vraiment si grave que ça si j'échoue. Là, quand on est dans une tradition qui parle de vie et de mort, on ne peut pas se permettre, en fait, de se dire, c'est pas grave, dans 6 mois, je reprendrai. Non, non, dans 6 mois, c'est fini. Il y a la frontière ténue entre la vie et la mort qui vous sépare d'un mouvement, d'une technique qui a été réussie ou ratée. Et il n'y a pas le droit à l'erreur, en fait. Et donc, pour maintenir cet esprit-là et pour le comprendre, il est nécessaire, en fait, de ne pas faire de compétition. Sinon, on va faire autre chose. C'est plus l'école. Mais, comme je le redis encore, le Béour, c'est très intéressant à regarder. Et ça n'empêche pas de voir aussi comment, dans ce contexte particulier du Béour, avec les objectifs du Béour, ben, comment l'intelligence humaine arrive à développer des techniques, des stratégies. Car je pense que dans 10 ans, le Béour qui est pratiqué sera différent, les armes seront différentes, parce qu'il y aura eu des contres et des contres de contres qui ont été développés. Et ça, c'est intéressant parce que c'est l'histoire des arts martiaux, en fait.
Il y a des armes qui vous plaisent un petit peu plus que d'autres ?
La première fois que j'ai vu du Katori Shinto Ryu, en fait... j'ai commencé à voir du kenjutsu. Le kenjutsu, c'est quelque chose qu'on a un petit peu plus l'habitude de voir au travers du kendo, des kendo modernes. Et puis après, en regardant l'entraînement, j'ai vu donc le bojutsu, les techniques de bâton. J'étais déjà bluffée. Et juste après arriver le bo, est venue la naginata. Et alors là, j'étais carrément ébahie. Donc la naginata, ce sont les techniques de halbarde. Et j'ai vu quelque chose qui était extrêmement léger, mais aussi extrêmement dangereux et très efficace. Et alors j'étais tellement bluffée, je me suis dit, ok, je vais y arriver, et je veux y aller, et je veux faire de la naginata. Donc j'espère qu'on aura, enfin, on aura sûrement l'occasion de vous en montrer, c'est quelque chose qui est très chouette. Aujourd'hui, c'est assez marrant parce que plus on avance dans l'école, plus on découvre de choses, plus on découvre des aspects dans les katas qu'on pratique tous les jours. Même les katas qu'on a répétés des millions de fois, les kenjutsu qui sont les premières techniques qu'on apprend, on continue dans les katas de base de découvrir des choses. Et des armes que je détestais quand j'ai commencé, je détestais faire du bo, j'avais vraiment beaucoup de mal à en faire, d'apprendre à l'aimer et avoir des moments où ce sont des armes que je préfère pratiquer et à d'autres moments d'autres techniques que je préfère également faire.
Alors, une arme préférée. Alors moi, je n'ai pas le niveau, donc je ne le pratique pas, mais je suis assez fasciné par les techniques de poignard, parce qu'il faut avoir assez de courage pour affronter un sabre avec un poignard. Et ça suppose, en fait, de casser la distance et d'aller chercher le katana. Donc ça, moi, je suis assez fasciné par ça. J'ai un peu peur aussi. Après, je trouve que des katas qui sont extrêmement précieux, extrêmement rares, extrêmement impressionnants, c'est les katas de halbarde. Parce que c'est des techniques qui sont vraiment propres à l'école, très uniques, et qui en fait font partie du cursus de base. Alors j'ai du mal à me dire c'est des techniques de base et arriver à faire des choses aussi subtiles, aussi virevoltantes en fait. Parce que c'est une école qui bouge beaucoup, et les katas sont extrêmement longs, ils sont là pour fatiguer, tout simplement pour s'endurcir et travailler le cœur. Il y a le double sabre aussi, qui est un peu légendaire, qui a l'air simple à l'extérieur et en fait qui a l'air très très compliqué pour ceux qui en font, notamment Marie qui s'exprime avec moi aujourd'hui. Et puis la discipline vraiment reine pour moi, c'est le Yaijutsu. C'est en fait avec une vraie lame et vous êtes seul. Et là, c'est des techniques où vous êtes seul avec vous-même, vous n'avez pas d'adversaire. Et puis il faut manipuler une vraie lame, quoi. Et il faut la faire vraiment virevolter autour de vous. Parce que c'est des techniques qui sont censées vous permettre d'éliminer un adversaire qui soit derrière vous, à côté de vous, en face de vous, qu'il y en ait un, qu'il y en ait deux, etc., etc. Et c'est vraiment là vraiment on est tout seul et on est face à soi-même, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore.
Ils ont bien résumé les choses, mais c'est vrai que moi le Yaijutsu, j'ai eu la chance de faire forger ma lame au Japon. Donc quand j'ai pu la prendre en main et vraiment pratiquer avec, vous avez quelque chose de vivant entre les mains, donc ça crée une relation assez particulière. Ça développe aussi vraiment l'attention, parce que vous ne pouvez pas vous louper avec une lame, sinon vous tranchez un petit peu, donc ça peut être très très dangereux. Mais c'est vrai qu'en découvrant l'école, finalement, on se rend compte que chaque arme a ses particularités et finalement son charme. Mais c'est vrai que la naginata, quand on arrive, c'est grand, c'est ample, c'est absolument magnifique. Et moi, j'avais eu vraiment un coup de cœur aussi, comme Romain, pour ce qu'on appelle le Kodachi, c'est le poignard, parce que ça explose et c'est extrêmement... Enfin, moi, j'aime bien ce qui explose et explosif, justement. C'est très, très joli. Mais effectivement, la discipline reine, pour moi, ça reste le yai, parce que on peut pas faire semblant de jouer avec quelqu'un en face sur le Kenjutsu et sur tout le reste, mais en yai, on est vraiment tout seul et on n'a pas envie ou pas, faut y aller, il faut pas se louper, quoi. Donc c'est très, très bien pour travailler sur soi.
Là, vous êtes à Montbazon pour les historiques. Les prochains endroits où on pourrait vous rencontrer, mis à part à Montreuil?
On essaye de contacter différents événements. Cette année en particulier, donc, c'est l'anniversaire de l'ère Meiji. Et il y a énormément de festivités qui se passent autour de l'amitié franco-japonaise. Nous, on est une association qui existe depuis peu de temps. J'enseigne seulement depuis le début de l'année, ce qui fait que pour 2018, je pense qu'on sera probablement pas visible plus que ça, mais sur 2019, peut-être sur des plus gros événements, peut-être sur la Japan Expo, mais je peux pas m'engager encore pour le moment, on n'a pas officiellement de date. Dans tous les cas, à chaque fois qu'on va être présent sur un événement, on aura sur notre site internet, donc le Seidokan, www.seidokan-dojo.com, il y aura ces événements et les dates de passage.
Je vous propose 5 accessoires et vous pouvez prendre un des 5 accessoires. Je vous propose de choisir entre les lunettes de Clark Kent, le panier du petit chaperon rouge, les baskets de Marty McFly, le violon de Sherlock Holmes ou sinon le chapeau d'Indiana Jones. Vous prenez quoi?
Moi, j'adore le chapeau d'Indiana Jones. Je suis une grande fan d'Indiana Jones et j'aime beaucoup ses chapeaux.
Le violon.
Je vais prendre le chapeau parce que quand même Harrison Ford, c'est le meilleur acteur de l'univers. C'est le type qui tue avec un coup de pistolet, un type qui fait du sabre et qui fait beaucoup de mouvements avec. Donc c'est une leçon d'humilité. C'est un peu l'anti-archéologue aussi, c'est le mec qui vole et qui détruit tout. Et on ne sait pas trop s'il est vraiment intéressé par l'histoire des objets. Donc voilà, c'est aussi un morceau de l'enfance des grands films qu'on regardait d'aventure. Ouais, donc Harrison Ford, quoi. Enfin son chapeau en tout cas.